Bonjour à tous. On espère que vous allez bien ce matin. Plusieurs chrétiens négligent, oublient ou ne comprennent pas le Saint-Esprit. Un rôle important, une personne de la Trinité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons commencé une série sur le Saint-Esprit récemment et que nous allons terminer ce matin. On a vu que le Saint-Esprit nous appelle. Il nous rend aptes à croire, il nous régénère et crée en nous le caractère de Jésus-Christ afin qu'on devienne de plus en plus à l'image de Jésus-Christ, qu'on le ressemble de plus en plus. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est ce qui distingue vraiment de la religion, c'est que ce n'est pas nos efforts seulement. Le Saint-Esprit est là, il nous accompagne et c'est lui qui fait cette œuvre en nous. Et il y a vraiment une libération dans ça. Ça enlève tout ce côté légalisme. Lorsqu'on n'est pas chrétien, on ne connaît pas Jésus-Christ comme son sauveur et qu'on va faire des efforts et des efforts des efforts pour essayer de plaire à Dieu, mais sans succès. Le Saint-Esprit fait cette œuvre-là dans le cœur du croyant. Il vient dans sa vie, c'est lui qui l'appelle, le rend apte à croire, il nous régénère, transforme le cœur et nous change de plus en plus au caractère qui ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. C'est vrai dans tous les domaines de notre vie, soit au travail, ça va se manifester dans notre attitude, dans notre mariage. Et parfois, ça prend du temps. Évidemment, on aimerait ça, comme je le dis souvent, être comme Jean-Baptiste du jour au lendemain. Mais ce n'est pas possible. Des choses qu'on apprend à travers des années. C'est ça. Moi, je me rappelle mes enfants. Aujourd'hui, mes enfants, lorsqu'on les visite, qu'on les rencontre, et je leur dis... Bon sang, j'aurais aimé savoir et être ce que je suis aujourd'hui, même si j'ai du chemin encore en avant de moi. Lorsque vous étiez petit, j'aurais aimé être un meilleur père. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, parfois, hein, de vouloir être une meilleure mère, un meilleur père et tout ça? Tu vieillis, il y a des choses que tu apprends, bon sang, là, c'est à refaire. Hein? Et mes enfants ont été très patients et gracieux avec moi et mon épouse aussi. Mais ça prend du temps à changer, à transformer, donc il faut être patient. Et surtout pas lâcher, comme on va le voir ce matin. Et c'est lui qui nous unit, c'est l'Esprit-Saint qui nous unit, qui nous forme en Église. Il nous donne une nouvelle famille qui est vraiment l'Église. Et on lit dans 1 Corinthiens le baptême du Saint-Esprit. C'est ça, c'est l'acte par lequel le Saint-Esprit fait de nous un membre de son corps, le corps de Christ qui est l'Église. Il nous donne des dons aussi, comme on a vu, les dons de l'Esprit, afin que l'on puisse servir les autres et aider les autres à grandir dans leur foi. Et c'est mutuel, il y a une mutualité ici. Ce matin, j'aimerais qu'on regarde un peu notre avenir. On va voir un passage, ce matin, on va continuer à regarder Romains 8, comme on l'a fait récemment. Comme dit Douglas Moo dans son commentaire, et comme on l'a dit, ça fait trois fois, je le dis, le plus beau passage du plus beau livre de la Bible, Romains. On va regarder ce que le Saint-Esprit nous réserve pour notre avenir et comment ça va affecter notre vie aujourd'hui, maintenant. Donc, si vous voulez bien venir me rejoindre dans Romains chapitre 8, on va commencer la lecture au verset 17 et on va poursuivre jusqu'au verset 27, en fait. Alors, 17. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Prions, s'il vous plaît. Eh bien, Seigneur notre Dieu, certainement ce passage est glorieux, mais tu en es l'auteur. Tu as inspiré ces paroles à l'apôtre Paul afin qu'il puisse nous les donner. Et des chrétiens, à travers les âges et les siècles, voire même millénaires, ont lu et se sont inspirés par ces paroles si réconfortantes et consolantes et rassurantes pour chacun d'entre nous. Que l'on passe des moments difficiles, on pense à Mme Lord et M. Lord, dans ces moments d'épreuve, nous pouvons nous accrocher à ces promesses, que tu es toujours à nos côtés, tu es toujours avec nous. Seigneur, nous te prions pour ce temps ce matin, que tu puisses parler à nos cœurs et que tu puisses nous aider à prendre des décisions que nous avons besoin de prendre, chacun d'entre nous, et être encouragés pour ceux qui ont besoin d'encouragement. Et merci pour ta parole. Merci pour ton esprit, comme on a vu depuis le début de cette série, combien ton esprit est puissant et œuvre, exerce un ministère en chacun de nous. Merci pour ton esprit, qu'il illumine nos cœurs ce matin et qu'il nous aide à mettre en pratique ces choses que tu nous révèles au nom de Jésus. Amen. Alors, quels sont les ministères du Saint-Esprit qu'on voit ici dans le chapitre 8? Eh bien, on va parler de notre avenir. On va vraiment parler de notre avenir ce matin. S'il y a une chose qu'on voit dans les Écritures, surtout sous la plume de Paul, on va voir que Paul va souvent changer de temps de verbe lorsqu'il parle de notre salut. Tantôt, il va parler « nous avons été sauvés ». Alors, tous ceux qui sont venus à Jésus-Christ ont été sauvés. Mais ce qu'on va voir aussi, c'est que le Saint-Esprit nous sauvera. Donc, il y a un temps de verbe ici, un jeu de verbe intéressant, et on va s'arrêter là-dessus. Le chapitre 8, comme on l'a dit, c'est un chapitre glorieux. Et ce qu'on voit vers la fin du chapitre, au verset 30, voici ce que nous lisons. « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » C'est au passé, vous voyez. Maintenant, Paul ne s'arrête pas uniquement sur la justification, il parle aussi de la glorification du corps. L'une des choses qu'on remarque chez Paul, c'est toujours ces changements de verbes. Et parfois, on a la difficulté à saisir. Il va parler une fois, Dieu nous a sauvés, tantôt il parle, il nous sauve, et tantôt il va dire, il nous sauvera, passé, présent et l'avenir. Nous avons été sauvés, nous avons été rachetés, nous sommes sauvés, et tout d'un coup, il va passer à l'avenir. Et parfois, même dans la même phrase, nous serons sauvés et nous serons glorifiés. Dans les versets qui précèdent, au verset 14 à 16, Paul a dit aux chrétiens que ceux qui sont en Jésus-Christ sont maintenant des enfants de Dieu. On a été adoptés maintenant, on est dans la famille de Dieu. Il a fait de nous des enfants. Nous avons reçu un esprit d'adoption. Nous sommes les enfants de Dieu. Mais au verset 23, ça dit, nous attendons l'adoption. Alors, on a été adoptés, mais nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc, nous avons été adoptés et nous attendons l'adoption. Ça, c'est comme si c'est passé mêlant, on va continuer un petit peu. Le mot rédemption signifie être racheté, surtout dans le contexte romain, dans tout l'Empire romain. L'image vient de tout ce contexte d'esclavage. C'était le paiement qu'on faisait pour libérer un esclave. Alors, on a été rachetés. Et l'image, évidemment, pour des enfants de Dieu, c'est que nous étions esclaves, vraiment, de notre nature pécheresse, esclaves du péché. Et par Christ, ce qu'il a accompli sur la croix, nous avons été libérés de cet esclavage qui nous rendait captifs au péché. Donc, le mot « rédemption » signifie être racheté. Être dans la servitude, comme dit le passage, c'est être enchaîné. Et l'idée est ne pas être libre de ce que l'on pourrait être, de ce que l'on devrait être à cause du péché, ni pouvoir faire ce que nous sommes supposés faire. Et depuis la chute, depuis que l'homme a péché, on a brisé notre relation avec Dieu et toutes les relations ont été brisées. Notre relation aussi horizontale avec les autres a été brisée. C'est pour ça qu'il y a tellement de problèmes dans nos vies de couple, des problèmes à l'ouvrage, avec les employés, les employeurs et tout ça. Il y a ce péché qui traîne, qui a brisé les relations, autant notre relation avec Dieu qu'avec les autres. lorsque nous avons brisé notre relation avec Dieu, tout le reste a brisé. Tout le reste. Rien n'est plus ce qu'il devrait être. Et on va voir tantôt même que le monde, la terre même, est sous une servitude. Nous sommes donc dans la servitude dans tous les domaines de notre vie. On est plus libre d'être ce que nous sommes censés être. Et nous sommes dans la servitude sur le plan sociologique, psychologique et physique. Alors même les meilleurs chrétiens, et vous le savez, vous comme moi, même les meilleurs chrétiens, les plus matures, vont connaître parfois même des moments d'angoisse, d'inquiétude. Et ils ont certainement fait un bout de chemin, ils ont certainement grandi, ils ont une maturité, on le voit avec plusieurs années dans la vie chrétienne. Ils ont certainement eu plusieurs libertés, plusieurs délivrances et victoires dans leur vie, mais ils luttent encore de temps en temps. Et c'est qu'on traîne cette forme de... les conséquences de la chute. Et même les meilleures églises, de temps en temps, auront des problèmes. Je sais, vous n'êtes pas habitués de voir ça ici. On n'a pas, nous autres, ici, gloire à Dieu. Mais il y en a, ça existe. Il y en a dans certaines églises. Et même si on aime le Seigneur, des fois, on va dire des choses qu'on n'aimerait pas dire. Après ça, on regrette, c'est fait, on blesse. On peut être méchant, des fois. Êtes-vous d'accord avec ça? Ah oui, je sais. Eh bien... À partir du moment qu'on devient chrétien, tous ses péchés sont pardonnés. Nous dit d'ailleurs le début du passage, le chapitre 8, commence comme ça. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Le Seigneur nous voit à travers Jésus, à travers l'œuvre que Jésus a fait à la croix. C'est le même qui nous voit. Et dès qu'on place notre foi en Jésus-Christ, la Bible dit clairement, et la Bible ne ment pas, ça dit que nous avons été justifiés, déclarés justes devant Dieu. Amen. Et dans ce sens, nous sommes sauvés, nous avons été sauvés, ça s'est passé, c'est réglé. Et pourtant, quoique nous soyons déjà sauvés dans ce sens, on a encore besoin du salut. Il y a encore une certaine servitude. Et les érudits, ceux qui se spécialisent dans l'étude des Écritures depuis des années, vont appeler ça le « déjà, pas encore ». C'est qu'il y a des versets qui mettent l'accent sur ce que nous avons déjà. D'autres versets vont mettre l'accent sur ce qui n'est pas déjà là, ce qui s'en vient. Le déjà et pas encore. Il y a du déjà là et du pas encore dans les Écritures. C'est notre position en Jésus-Christ. Nous avons été justifiés. C'est ce que nous sommes. Nous avons été sanctifiés, même dira le passage. Nous avons été glorifiés. Mais en même temps, il y a un aspect qui n'est pas encore là, qui s'en vient, qui va venir. Alors, nous avons été sauvés, nous serons sauvés. Nous avons été rachetés. Mais nous avons encore besoin d'être sauvés. Ce n'est pas pour avoir la vie éternelle. Ça, c'est réglé. Ça a été réglé dès l'instant que nous avons placé notre foi en Christ. Ça, c'est réglé. Nos péchés ont été pardonnés. C'est réglé. Nous avons été adoptés. Et Dieu ne joue pas comme ça. Tu ne peux pas être adopté une journée, puis tu n'es plus adopté le lendemain, adopté le mois prochain, selon ce que tu fais ou si tu es assez bon. Ça ne fonctionne pas. Tu es un enfant de Dieu, tu vas toujours être un enfant de Dieu. Mais c'est dans le sens de sanctification, de s'améliorer de plus en plus et grandir. C'est dans ce sens-là qu'il faut prendre le terme « salut ». Le mot « salut » ne veut pas toujours dire « vie éternelle » dans le sens d'avoir une place réservée au ciel et avoir une relation avec Dieu. Par exemple, lorsque Pierre tombe à l'eau, il commence à marcher, manque de foi, il commence à couler, puis il dit « Seigneur, sauve-moi ». Puis pour Pierre, il n'avait absolument pas en tête la vie éternelle. Tout ce qu'il voulait, c'est « embarque-moi dans le bateau, je ne veux pas me noyer ». Alors le mot « salut », sozo, le mot « salut » peut mettre l'accent sur différents aspects de la vie chrétienne. Alors, nous avons été rachetés, sauvés, mais on a besoin aussi d'être sauvés, de progresser. Et le verset 23, Romains 8, 23 dit, « Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Alors, on attend le salut final, la rédemption finale de notre corps. Ton salut final va arriver lorsque tu vas ressusciter, lorsque tu auras un nouveau corps, et c'est la bénédiction qui s'en vient. Tu vas devenir ce que tu as toujours été censé être au ciel. Tu vas le devenir. Tu vas vraiment devenir la personne que tu as toujours été censé être. Complètement, même ton corps sera complètement différent. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, on le voit ici. Et Romains 8, 11 dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il va rendre la vie à notre corps mortel. Il va changer notre corps. On va avoir un nouveau corps. Le même esprit qui habite en toi maintenant que tu es en Jésus-Christ, qui t'a donné le salut, va changer ton corps. C'est le salut final, en quelque sorte. Et Philippiens 3, 20 ajoute, renchérit en disant, « Nous sommes concitoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation. » Il va changer le corps, notre corps, de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alors, de quoi notre corps va-t-il avoir l'air? Eh bien, on a quelques informations. Premièrement, Jésus. Jésus est certainement un exemple. Jésus est le premier fruit, nous dit la Bible. Et on peut regarder le corps, les quelques informations qu'on a. On n'a pas beaucoup d'informations dans les Écritures là-dessus. On aimerait ça en avoir beaucoup plus. On ne nous en donne pas énormément. On peut avoir un soupçon, juste des petites informations ici et là. Et on voit Jésus, par exemple, arriver. Et ça nous est dit qu'à travers Jésus-Christ, on peut voir un peu le corps glorifié. Dans 1 Corinthiens 15, par exemple, il est dit « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. » Et s'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel, dit Paul dans 1 Corinthiens 15. Alors, notre avenir est glorieux. Notre avenir est glorieux. Il y a rien que des bonnes choses dans les Écritures sur notre avenir en termes de ce corps glorifié. Trois particularités de ce nouveau corps qu'on peut voir un petit peu en Jésus-Christ. On a vu Jésus, on voit Jésus traverser les murs, on voit des choses particulières. Mais ce qu'on apprend, c'est que dans 1 Corinthiens 15, ça sera notre corps. Ça va être notre corps, là. On va pouvoir se reconnaître au ciel. Certainement, il va y avoir des changements parce que ça va être un corps glorifié, mais il y a des similitudes. Ça va être notre corps. Il dit, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et lorsque Jésus fut ressuscité, qu'il est apparu aux disciples, il avait toujours les mêmes mains. Il a dit, regarde, les trous. Alors, il avait le même corps, mais son corps était changé. Il avait revêtu l'immortalité. Alors, nous serons nous-mêmes, mais notre corps sera changé. Quand on va rencontrer au ciel, on pourra dire, tiens, François est là, tiens, comment ça va? Puis, on va toujours aller bien. Il n'y aura pas de journée où on va être fatigué, puis on ne filera pas. Peut-être, probablement, qu'on ne se demandera même plus la question, comment ça va, parce qu'on va toujours aller bien. Mais ça va, on va pouvoir se parler. Moi, ma mère, dans les dernières années, juste avant qu'elle décède, elle a eu l'Alzheimer. Et puis, en ayant l'Alzheimer, vous savez, on voyait des morceaux de sa mémoire disparaître tranquillement. Et l'Alzheimer, c'est comme si c'est des... Tu sais, comme nous, on ne le réalise pas, mais quand tu t'en vas juste au robinet, tu vas ouvrir l'eau, tu vas la fermer, il y a des étapes. Te rendre au robinet, ouvrir, laver les mains, fermer, t'essuyer, ça, c'est des étapes. Nous, on n'y pense pas, on le fait machinalement, mais quelqu'un qui a l'Alzheimer, il y a des morceaux de mémoire qui disparaissent. Ma mère pouvait se rendre à la toilette, ouvrir le robinet, rester là pendant 30 minutes. Et tu vois ta mère dépérir tranquillement comme ça, et c'est venu au point qu'elle a perdu même le vocabulaire, ne pouvait plus parler. Et on avait beau lui parler, mais elle ne pouvait pas répondre à ce qu'on lui disait. Mais moi, j'ai hâte, ma mère a accepté le Seigneur il y a quelques années avant de décéder, de mourir, et j'ai hâte de la revoir au ciel, et là, elle va pouvoir me répondre. Et elle a vraiment une longueur d'avance sur moi, donc elle a beaucoup de choses à me raconter dans le ciel. Et ça va être agréable de pouvoir avoir cette communion fraternelle et avec ma mère, avec d'autres aussi, on pourra se voir et se parler. Moi, je crois à ça, absolument. Il n'y a rien qui indique le contraire dans le Nouveau Testament ni dans la Bible. Rien n'indique le contraire de ça. Donc, je pense qu'on va pouvoir se reconnaître. On le voit, Moïse et Élie qui reviennent à la montagne de Transfiguration. Donc, on voit qu'on va avoir le même corps, c'est ce que je crois. Deuxièmement, on va avoir un corps glorifié, ça va être un beau corps. Donc, non seulement ça va être le même corps, mais il va être beau. Il va être glorifié, ça va être... D'ailleurs, c'est ce que nous dit le verset 43, 1 Corinthiens 15, 43. « Il est semé en déshonneur, mais il ressuscite en gloire. » Et dans ce monde, nous avons... On a dans ce monde des personnes avec des âmes souillées, avec de beaux corps, ou des âmes... purifiés, justifiés avec des corps fatigués. On a un peu les deux, mais au ciel, ça va être les deux. On va avoir un beau corps, puis une âme purifiée, un corps pur, et ça va être parfait. Le jour où nous allons rencontrer notre Sauveur Jésus-Christ de face à face, on va être, la Bible dit, on va être transformé immédiatement à son image. J'aime bien comment C.S. Lewis le décrit. Il dit, voici comment il l'exprime. Il dit, il fera du plus faible et du plus souillé d'entre nous une créature immortelle, éblouissante et éclatante, palpitante d'une vie nouvelle rajeunie, joyeuse, empreinte de sagesse et d'amour, plus que tout ce que l'on peut imaginer. Il peut faire de nous un miroir. Et C.S. Lewis parle de ce miroir. Il peut faire de nous un miroir limpide qui renvoie parfaitement à Dieu, à un degré nettement moindre, sa puissance illimitée, sa bonté et sa joie. Voilà ce qui nous attend et rien de moins, dit C.S. Lewis. Lewis dit que nous serons éblouissants, des créatures palpitantes, débordantes, d'une telle grandeur et d'une telle puissance que si on se voyait aujourd'hui, l'état que nous serons dans le ciel plus tard, en état glorifié, si on voyait une image de nous-mêmes, une photo, des photos de nous-mêmes, de ce que nous serons dans l'état, dans l'éternité, nous aurions tendance, on serait tenté, mais on ne le ferait pas, on serait tenté de se mettre à genoux devant ces images tellement elles seraient glorieuses. On serait tenté, plusieurs le font, mais la Bible dit de ne pas avoir d'image et tout ça, mais on serait tenté tellement que ce sera glorieux cet état dans l'éternité, ce sera tout à fait magnifique. L'ami de Lewis a sorti quelque chose de vraiment bien, Tolkien. C'est des amis des grands écrivains. On connaît Tolkien pour Le Seigneur des Anneaux. Il a écrit plusieurs ouvrages. Il dépeint l'expérience d'une personne qui meurt dans l'une de ses œuvres. Et voici comment il décrit l'état de cette personne glorieuse et transformée. C'est vraiment intéressant ce qu'il fait. Voici ce qu'il dit. Il dit, il était d'une grande beauté. Il décrit le personnage d'une personne glorifiée. Il dit, il était d'une grande beauté. Tous ceux qui le voyaient virent à la fois une incomparable grâce de jeunesse, une virilité masculine et une fougue de jeunesse et la sagesse de l'âge. Et ce que Tolkien essaie de montrer, c'est qu'il y a une beauté. Il y a une beauté chez les enfants qu'on perd avec l'âge. Mais en même temps, on retrouve un autre genre de beauté, une autre sorte de beauté chez les jeunes hommes et les jeunes femmes, qu'on ne peut retrouver chez les enfants ni chez les personnes âgées. Mais en même temps, il dit, il y a une majesté, une sagesse, une âme empreinte de noblesse auquel on ne peut retrouver que chez les personnes avancées en âge, qu'on ne retrouve pas chez les enfants ni chez les jeunes adultes. Mais voici ce qu'il dit. Dans un sens, c'est comme si ces trois formes de beauté, la beauté des enfants, la beauté des jeunes adultes et la beauté des personnes âgées, c'est comme si elles sont étendues à travers les années. Mais quand tu vas rentrer au ciel dans l'éternité où que Dieu va te donner un nouveau corps et tu seras glorifié, tu vas avoir toutes ces beautés réunies en une seule personne et ça va être toi. Amen. Et que c'est bien dit. Nous aurons la beauté parfaite, la beauté des jeunes, des adultes, la beauté des vieillards. Nous aurons à la fois l'incomparable grâce de la jeunesse, la virilité et la fougue des jeunes adultes et la sagesse de l'âge. Alors nous aurons la beauté parfaite et complète. Et Paul dit d'un côté que nous serons nous-mêmes, mais en même temps, il dit nous serons changés et ce sera glorieux, on va être beau. Verset 43 en Corinthiens 15 le dit bien, il sera semé en déshonneur et le ressuscite en gloire. Non seulement ce sera notre corps, il sera beau, mais il sera également puissant. 1 Corinthiens 15, 43 dit, il sera semé faible, il ressuscite plein de force. Plein de force. Tu vois la vigueur, tu vois être en forme. C'est quoi? C'est quand, il y en a qui sont des gens du matin. Êtes-vous du matin? Lavez la main ceux qui sont du matin. Il y en a qui sont du soir, il y en a qui sont du matin. Vous êtes du matin, vous autres? Pas beaucoup, hein? Pas beaucoup. Ceux qui sont du soir, lavez la main. Oh, ouais, OK. D'autres ne le savent pas encore, là, vous êtes en train de penser, c'est correct. Et quand on va être dans le ciel, tu vas toujours être en forme. Toujours en forme. Et tu vas être plein de vigueur, plein de force, plein d'énergie. Mon ami, Vous savez, là, les jeunes qui ont tellement d'énergie, on les appelle les hyperactifs. Ça va être une gang d'hyperactifs au ciel. On va être toute une gang d'hyperactifs. On va être en forme. Ouais, moi, je ne veux pas faire la gardienne au ciel. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Verset 43, il dit, il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Et tu sais, ici en ce moment, Jésus l'avait déjà dit d'ailleurs dans Luc 24, qui dit, les esprits n'ont ni eau ni chair. Donc, tu as un ou l'autre maintenant, tu es soit esprit ou tu as un corps. Mais au ciel, on va voir les deux. C'est vraiment phénoménal, c'est spécial. On regarde Jésus, il mange avec eux autres, il mange avec les disciples, il est en train de manger. Tu sais, un bon steak, là, tu sais, New York steak. Hey, mon ami, moi, j'espère qu'il y a ça au ciel, là. Ah, oh, hey, j'espère moi. Hein? Oui, Angus, j'espère qu'on va avoir un barbecue au ciel, puis tu vois, ça va être... Mais pourquoi pas? Pourquoi pas Jésus? Ben, c'est ça, il y en a qui vont venir me voir. Ils disent, ah, théologiquement, t'es pas bien, tu n'as même pas besoin de manger au ciel. OK, c'est correct, bon, écoute. Ben, même si je n'ai pas besoin de manger, je peux, si j'aime ça. Et là, ça va être particulier. Jésus rentre à travers un mur. Là, en ce moment, vous avez combien de sens? 5. Vous savez combien on va avoir au ciel? Et ça, c'est toute une question, hein? Mais non, parce qu'écoute, c'est spécial. On voit Jésus traverser un mur. Moi, je pense qu'on va peut-être avoir 100 sens. On va peut-être en avoir 1000. Pourquoi pas? Ça va être, regardez, on n'aurait même pas besoin de GPS. Ça va être intégré en nous. Mais non, mais gars, vous dites, hein, comment ça se fait? Pensez-y, le pilier doré. Je vais déjà raconter l'histoire du pilier doré. Ça va naître en Alaska, tout petit. Ça n'a jamais été en Hawaï de sa vie. Puis il y a quelque chose en lui qui est programmé, qui part en voyage pour l'hiver. Ça va en Hawaï. On aimerait tous faire ça. Amen. Et puis, il part dans le sud, fait un voyage à Hawaï. Il n'y a jamais été. Puis, il va voyager à travers des vents, les tempêtes, la pluie, la neige. Il fait noir. Il peut même pas arrêter une seule fois en chemin. C'est juste la mer. Il pourrait se noyer. Il se rend. Il n'est jamais allé. Pourquoi on pourrait pas avoir ça? Moi, je pense que c'est ça. On va avoir plusieurs sens qui vont nous permettre de nous retrouver ici et là. Je vais aller voir ma mère, tiens, pouf, j'y vais. Il n'y a rien qui me dit contre dans les Écritures. J'ai le droit de rêver. C'est correct, parce que la Bible me donne quelques indices qui semblent suggérer qu'on s'en va dans cette direction-là. Parce que Jésus l'a fait, il a traversé des murs. Et moi, j'ai hâte de traverser des murs, ça va être super. Il n'y aurait pas de limite. En d'autres mots, le point, c'est qu'il n'y a pas de limite dans ce nouveau corps. Il va être puissant. Il va être glorifié. Ça va être un corps glorieux. Puis c'est bon pour nous autres de s'arrêter de temps en temps. Et il y a une raison pour ça. Parce que l'espoir, l'espérance qu'on a sur notre avenir va influencer, va avoir des incidences sur notre présent. Et c'est ça que Paul est en train de nous emmener, là. Il est en train de nous emmener là, là. Maintenant, la gloire que l'on veut dans le fond de notre cœur, la recherche de cette satisfaction, cet épanouissement, le bonheur que l'on souhaite, que l'on cherche au fond de notre cœur. On se marie espérant trouver ce bonheur ultime. On a des enfants, on espère avoir ce bonheur. Et ce sont tous des joies, des bonheurs, des bénédictions. Mais l'ultime bonheur, là, ce à quoi on aspire dans le fond de notre âme et de notre cœur, que l'argent ne peut pas combler, ça se trouve vraiment là. Et voici comment C.S. Lewis le décrit dans son livre, Le problème de la souffrance. Il dit, ce quelque chose, nous ne l'avons jamais eu. Toutes les choses qui n'ont jamais saisi profondément notre âme n'ont été que des allusions à cela, des lueurs fugitives et décevantes, des promesses jamais tout à fait accomplies, des échos qui s'éteignaient juste au moment où notre oreille les percevait. S'il venait toutefois à se manifester réellement, si jamais un écho nous parvenait qui, au lieu de s'éteindre, s'enflait jusqu'au son lui-même, nous le reconnaîtrions. Sans aucun doute possible, nous dirions, « Voici enfin la chose pour laquelle j'ai été créé. » Chers amis, lorsque tu vas arriver au ciel, tu vas dire, « Voici enfin la chose pour laquelle j'ai été créé. » Évidemment, c'est une grâce. On ne mérite pas d'être là. On ne mérite pas d'avoir toutes ces bénédictions-là. Évidemment, c'est une grâce par l'amour de Dieu. On ne mérite pas d'être là parce que nous avons tassé Dieu, nous avons péché. Mais si tu es venu à Jésus-Christ, c'est ce qui t'attend. Et tu vas avoir une satisfaction dans ton âme, dans ton cœur. Tu vas dire, enfin, c'est ça. C'est ça ce que tu avais toujours voulu. Chaque fois que Dieu nous demande d'agir d'une façon ou d'une autre, d'obéir, de chercher la sainteté, c'est parce qu'il est en train de nous préparer. Il veut notre bonheur. Alors, comme c'est important, et la parole de Dieu le répète tellement souvent, ne mettons pas notre espoir sur des choses temporaires. On peut mettre tellement d'accent sur des choses aujourd'hui qu'on n'a pas ce qu'on veut maintenant, on n'a pas de mariage qu'on aimerait avoir maintenant, on n'a pas de mairie qu'on aimerait avoir, pas les enfants qu'on aimerait avoir, les enfants des voisins sont tellement gentils. C'est pas là. Il n'y a rien qui va vraiment satisfaire ce que tu recherches au fond de ton cœur, sauf le ciel, quand tu auras ce corps glorifié. Tu vas rentrer dans la présence de Dieu et tu vas voir Jésus-Christ face à face. C'est Jésus. Jésus, lui, est cette perfection que tu recherches. Alors, voilà ce que ça signifie, le Saint-Esprit nous sauvera. Mais ce n'est pas tout. Vous savez que le Saint-Esprit va sauver également la terre. Ce monde aussi va changer. Lorsque le Saint-Esprit nous donnera un nouveau corps spirituel et glorifié, on va demeurer dans un nouveau monde, la nouvelle terre, un monde renouvelé. Romains 8, verset 19, dit ceci, « La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, à cause du péché. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. » D'abord, il est dit que la nature n'est pas ce qu'elle devrait être. Elle non plus. Notre péché l'a dépravé, en quelque sorte. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit, mais la nature aussi n'est pas ce qu'elle devrait être. Elle est en décomposition. Et elle le sait. Le passage le dit, elle le sait. Elle sait qu'elle n'est pas ce qu'elle devrait être. Et elle attend, elle a hâte de l'être et elle a hâte d'être libérée, parce qu'elle aussi était comme sur un joug. Et ce que ça laisse entendre, c'est que le monde aussi a été créé, on le voit d'ailleurs dans les psaumes, pour donner la gloire à Dieu. Donner gloire à Dieu. À sa façon, la nature connaît son Créateur, même mieux que nous. Et Paul ajoute quelque chose de vraiment particulier, il dit, la nature, la création, va prendre part à notre liberté. C'est comme si la nature va suivre. Mais l'accent est sur nous, mais la nature va suivre. Et voici comment un commentateur l'explique. Il dit, « Le Saint-Esprit viendra nous donner la rédemption finale, la glorification finale de notre corps, et la terre prendra part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu, nous dit le texte. » C'est-à-dire qu'il y aura une explosion d'amour et de puissance si grande que la nature suivra. Et la nature deviendra enfin ce qu'elle devait être. Elle va suivre les enfants de Dieu. Ce n'est pas la création en premier, c'est nous, les enfants de Dieu en premier, qui entrons dans la gloire. Et il y a une raison pour ça, parce qu'Exode 19 dit ceci, verset 5, « Vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. » Une autre traduction dit ceci, « Vous serez pour moi un peuple particulièrement précieux parmi tous les peuples. En effet, toute la terre m'appartient. » Dieu dit, « J'aime la terre. » Dieu aime les étoiles. Quand il a fait la création, il a regardé puis il a dit, « C'est bon, c'est bon. » Dieu aime la lune, les montagnes, les arbres, les animaux, mais ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il nous aime encore plus. Tu seras pour moi un peuple particulièrement précieux. De toute ma création, tu seras particulièrement précieux. De tout ce qui m'appartient, de tout ce que je considère comme étant précieux, toi, tu es spécial à mon cœur. Imaginez la plus belle scène dans le monde, dans le monde entier. Tu regardes la beauté de la nature, tu sors à l'extérieur, tu es dans le nord, tu vois l'eau, le lac, la forêt, les oiseaux, c'est magnifique. Et tu voyages à travers le monde, tu vois des choses tellement magnifiques. On appelle ça les merveilles du monde. Mais ça représente seulement l'ombre, une ombre de la beauté qui s'en vient, de ce nouveau monde qui sera changé et renouvelé, cette nouvelle terre. La nature telle qu'on la connaît aujourd'hui n'est qu'une ombre de ce qu'elle sera au retour de Christ. Mais encore, cela étant dit, nous serons encore plus glorieux que la nature renouvelée. Et c'est ce que le Saint-Esprit va accomplir. Parce que l'œuvre de l'Esprit, c'est de se débarrasser de la souffrance. C'est de se débarrasser de tous les gémissements. Et la terre gémit en ce moment, en attendant cette libération. Nous gémissons lorsque nous passons à travers les souffrances. La terre gémit parce qu'elle attend cette délivrance finale. Alors, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Comment trouver du courage dans ça? Eh bien, c'est vraiment intéressant parce que notre espoir de l'avenir a des incidences sur aujourd'hui. Et ça devrait l'être, ça devrait être comme ça. Qu'est-ce qu'on fait en attendant cette grande délivrance? On continue de souffrir? gémir, on attend la délivrance. Le mot gémir ici signifie la douleur, on le voit au verset 22, Romains 8, 22, il dit « Nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Les gens gémissent lorsqu'ils se meurent, ils gémissent lorsqu'ils accouchent, ils gémissent lorsqu'ils souffrent, ils sont dans l'épreuve, dans la souffrance, dans la douleur. On vit dans le gémissement, mais la nature aussi. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Eh bien, le Saint-Esprit nous sauvera en ce qu'il changera notre corps, et ce corps sera beau, puissant, mais il travaille en nous aujourd'hui, le Saint-Esprit. Il travaille en nous aujourd'hui. Il nous aide dans nos souffrances. Il s'implique dans nos brisements. Il ne nous laisse pas seuls. On l'a vu la semaine dernière, comment l'Esprit Saint nous aide. Et verset 23 nous dit, « Nous avons dans l'Esprit un avant-goût de cet avenir. » Le mot « avant-goût » ici, c'est le mot « prémisse » que l'on utilisait dans l'Ancien Testament lorsque c'était le temps de la récolte. Et tu avais à peu près 2 semaines d'ouvrage lorsque tu faisais la récolte, mais la première journée, ce que tu faisais, tu enlevais les prémisses, les premiers fruits, et tu avais une bonne idée de ce qui s'en venait. Et le Saint-Esprit nous a été donné comme prémisse, comme premier fruit de ce qui s'en vient. C'est un dépôt, c'est un gage de ce qui s'en vient. Et c'est ça l'idée ici. C'est donc un dépôt de ce qui s'en vient. C'est un morceau de ce qui s'en vient. Et ce qu'on nous dit en fait, c'est que le même Esprit qui va nous délivrer complètement de tout gémissement dans l'avenir, qui va nous donner une délivrance complète et parfaite dans l'avenir, est avec nous maintenant, aujourd'hui. Et il intercède pour nous quand on passe à travers ces moments de gémissement et de douleur. Il nous aide à traverser des moments difficiles. Lorsqu'on passe à travers l'épreuve, il y a 2 expériences que nous pouvons connaître avec le Saint-Esprit. Ça peut comparer, par exemple, à un voilier et les avirons. Un voilier, ce qui arrive, c'est que tu traverses, tu t'en vas et il y a tout un romantisme avec le voilier où tu n'as pas de moteur, tu as les vents et c'est les vents qui te poussent et tu voyages à travers les vagues par le vent, c'est le vent qui te pousse. Et parfois, le Saint-Esprit agit comme ça. Il remplit ton cœur d'une assurance, de la joie et il te pousse à travers les épreuves dans ces moments difficiles. Et c'est lui qui fait cette œuvre-là. Mais ton cœur reste dans la joie et... presque sans effort, ça avance, ça roule, et c'est le vent, le souffle du Saint-Esprit qui te pousse à travers ces moments de gémissement et d'épreuve. Mais parfois, c'est des avirons. L'autre jour, on a traversé le pont pour aller vers Ottawa, puis il y avait des gens qui faisaient de l'aviron. Ils travaillaient très fort, vous savez. Ils travaillaient fort parce que c'était contre-courant. Ils étaient en train de ramer. Excusez-moi. Terrible, ça. Excusez. Et il travaillait très fort pour essayer de voyager. Et parfois, c'est comme ça. Le Saint-Esprit t'aide à ramer. Ou tu marches contre courant, tu es dans le vent, contre le vent, et tu travailles, puis tu as de la misère, tu y vas de toutes tes forces. Et le Saint-Esprit est en train de t'aider à travers ces moments difficiles. Parce qu'il y a des moments difficiles dans notre vie. Mais le Saint-Esprit fait cette œuvre en toi. Donc, il travaille de 2 manières. Des fois, c'est comme le voilier. Gloire à Dieu dans ces moments-là où ça roule, ça avance à pleine vitesse. Mais d'autres, tantôt, on a le vent contre nous, puis on rame, puis on travaille fort. Mais le Saint-Esprit est encore là avec nous, même dans ces moments difficiles-là. Et c'est là qu'on a ce verset, cette promesse qu'il gémit avec nous. Il est en douleur avec nous. Et dans ces moments très difficiles où on ne se sent même pas en mesure de prier, même pas capable de prier, tellement on souffre, on n'a même pas les mots, on ne sait même pas comment prier. Tellement qu'on souffre, qu'on passe dans les moments difficiles. J'ai déjà connu ça dans ma vie. J'ai connu ces moments-là très difficiles. Je pense avoir compté lorsque ma fille elle a subi une intervention chirurgicale puis dans le visage. Et c'était, le docteur nous l'avait dit, c'est même pas incroyant, puis il a dit « priez ». Prier parce qu'il y a tellement de muscles, tellement de nerfs et tout ça, elle peut paralyser. Et je vous dis, moi, je me suis effondré dans ma chambre, j'ai prié, j'ai supplié Dieu, je pleurais. Et les deux, ma femme et moi, les deux, on a prié. Et qu'est-ce que tu demandes? Ton cœur est tellement lourd, tu souffres de voir ton enfant souffrir comme ça. Mais la parole de Dieu nous dit que quand tu arrives dans ces moments-là, le Saint-Esprit souffre avec toi. Il donne des soupirs inexprimables. Et c'est ça que le mot grec dit. C'est un gémissement, un cri de douleur. Et le Saint-Esprit est avec toi et il est en douleur. Et comme c'est intéressant, un jour, lorsque Jésus est rentré dans le territoire de la Décapole, on est venu vers lui avec un homme qui était sourd. Pouvez-vous imaginer être sourd depuis ta naissance, où tu n'as jamais entendu aucun son de ta vie? Et cet homme-là avait tellement souffert toute sa vie, surtout à l'époque où il n'y avait pas les supports de soutien qu'il y a aujourd'hui. C'est déjà difficile aujourd'hui, mais imaginez à l'époque où il n'y avait absolument aucune ressource. Et cette personne avait tellement souffert toute sa vie qu'on est venu voir Jésus avec cet homme-là, puis on lui a supplié, on a supplié Jésus qu'il intervienne, qu'il guérisse cet homme-là, qu'il lui impose ses mains. Ils ont supplié Jésus d'imposer ses mains pour cet homme-là. Et comme c'est beau, et ça c'est vraiment le rôle des enfants de Dieu, mes chers amis, on a besoin de supplier Dieu de toucher la vie des gens qui nous entourent. Et c'est vraiment intéressant parce que Jésus va le guérir, mais juste avant de le guérir, il y a quelque chose qui se passe. Jésus va faire quelque chose de tout à fait inusité. Le passage nous le dit. Ce que Jésus va faire, il dit, il va regarder au ciel. Il va regarder au ciel et Jésus, ça dit le même mot grec, va gémir. Jésus entre dans la souffrance de cet homme qui était sourd toute sa vie. Il va gémir. Jésus souffre avec cet homme. Jésus aurait bien pu dire, écoute, pas de problème, je vais te guérir, tiens, paf, 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 il est guéri, tu peux t'en aller. Pourquoi Jésus prend le temps et il souffre avec cet homme, plein de sympathie et d'empathie. Il prend cet homme, met ses doigts dans l'oreille, sa salive sur sa langue, mais avant, il regarde le ciel, il prie pour lui, puis il gémit auprès de son Dieu qui est dans le ciel et il souffre pour cet homme-là. Et vous savez ce que Jésus va faire? Parce que Jésus sait aussi qu'il doit passer par le gémissement sur la croix. Il va souffrir sur la croix pour nous, afin de nous libérer. Voyez-vous, lorsqu'on regarde tout l'avenir qui s'en vient, ce que Jésus a accompli à la croix, cette délivrance qui nous attend, lorsqu'on passe dans les moments difficiles maintenant, pensons à ce qui s'en vient, que maintenant, ce n'est pas parfait, ce ne sera jamais parfait maintenant. Ne lance pas la serviette. Continue de marcher avec Dieu. Continue à lire les Écritures, à prier. Même si tu n'en as plus envie, même si tu as perdu, tu passes par cette période de sécheresse spirituelle. Continue de prier. Continue d'aller vers Dieu et d'obéir, de marcher. Parfois, ça peut être difficile. Mais continue, sachant ce qui s'en vient. Parce que le passage nous dit que c'est en espérance que nous serons sauvés. Dans le sens que l'espoir fait toute la différence. Quand tu as de l'espoir, ça change tout. C'est près comme deux femmes qui s'en vont au centre d'achat Rideau. Au centre d'achat Rideau, ils ont chacune une bourse. Et les deux ont toute leur richesse, leur bien dans la bourse. Chacune a 1 000 dans chacune. Hey, tu rentres au centre d'achat Rideau avec 1 000 dans, hein? Mais c'est tout leur bien. C'est tout leur, ils ont toute leur richesse, chacune dans leur bourse. Une des filles, une des femmes, sait que le lendemain, il doit recevoir 10 millions de dollars qui sera déposés dans son compte de banque. Ça va être transféré, elle a déjà la date, ça va être transféré le lendemain dans le compte de banque. L'autre sait qu'elle n'aura absolument rien demain, puis rien après-demain, puis il n'y a rien qui s'en vient. Les deux rentrent au centre d'achat Rideau et les deux se font voler leur bourse. La première va dire, hey, c'est-tu plate? Hein? Mais elle sait que demain, il y a un 10 millions de dollars qui va être transféré dans son compte de banque. Donc, on s'entend-tu que l'épreuve n'est pas aussi dure que l'autre qui dit, « Aïe, aïe, je viens de tout perdre. » Ce que Paul est en train de nous dire ici, en disant de garder l'espérance, et ça va être, c'est ça qui va nous aider à persévérer, parce que ça donne la persévérance, dit Paul, c'est que n'oublie jamais que très bientôt, il y a un méchant transfert qui va se faire dans ton compte de banque. Amen. Quand tu vas rentrer dans le ciel, c'est bien plus que 10 millions qui vont être transférés dans ton compte de banque. Alors, rappelle-toi toujours ça, lorsque tu passes dans les moments difficiles et d'épreuves aujourd'hui, rappelle-toi, hey, mon compte va être plein tantôt. Il y a un transfert qui s'en vient. Je vais avoir un nouveau corps et ça va être complètement changé. Je vais être avec Jésus-Christ. Alors, mon espoir pour l'avenir a un impact, devrait avoir un impact sur comment je vis maintenant. Ça devrait m'inciter à dire non, ça me tente d'aller pêcher, ça me tente d'avoir du plaisir, d'avoir du fun, puis d'aller là. Mais Dieu dit non, 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 tu vois, le vrai plaisir, il n'est pas là, là. Ça, c'est un semblant de plaisir. Tu veux aller chercher ce que ton âme aspire à voir, c'est pas là que tu vas l'avoir. Tu vas voir, tu vas être déçu. Et combien de gens viennent nous voir et nous dire, je suis allé là, Je pensais avoir beaucoup de bonheur, de plaisir, puis finalement, ça n'a jamais été ce que je pensais. Combien de gens, des centaines et des centaines de personnes nous disent la même chose? Parce qu'elle n'est pas là, la réponse. Donc, ton avenir, espère dans l'avenir, ce qui s'en vient, ça va avoir un impact sur toi. Et deuxièmement, rappelle-toi que lorsque tu es en train de ramer contre le vent, contre le courant, rappelle-toi que le Saint-Esprit est là, il souffle avec toi, il prie parce que lui sait quoi demander à Dieu et il intercède pour toi. Et on voit même ailleurs que Jésus lui-même est dans le ciel, puis il intercède pour toi. Mais on regarde le rôle du Saint-Esprit, il est là avec toi dans ces moments que tu es en train de ramer. Donc continue de ramer, lâche pas les rames dans l'eau, continue de ramer, continue à chercher à plaire Dieu parce que l'Esprit Saint est là avec toi pour t'aider à ramer. Amen. Et on veut remercier le Seigneur ce matin. On veut prendre le temps de prendre la Sainte-Seine ce matin. Parce que lorsque Jésus était sur la croix, il a cité un psaume. Et je vais inviter les frères qui sont assignés à distribuer les éléments ce matin. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez passé par la nouvelle naissance, vous êtes baptisé, on vous encourage à prendre part à la Sainte-Seine ce matin. Et on va regarder ensemble ce matin un passage juste après le cantique. Et pendant que nos frères distribuent les éléments. Sur le passage que Jésus a en tête au moment où il est sur la croix, il prononce ce cri à son Père. Mais cette prière, ce cri que Jésus donne, vient du psaume 22:1. Et le verset que Jésus a en tête à ce moment-là, alors qu'il est en train de souffrir, est en train de s'offrir en sacrifice. Et qu'il connaissait très bien, continue en disant, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? » Et le mot hébreu, c'est « gémir ». C'est le mot « gémir » où Jésus est en train de gémir sur la croix. Et pourquoi? Pourquoi Jésus est-il abandonné sur la croix par son Père afin que toi, tu ne sois jamais abandonné lorsque toi, tu gémis? Et le Seigneur est avec nous, le Saint-Esprit est avec nous, même dans nos moments de douleur et de souffrance. Et ça, c'est grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Et nous voulons prendre ce pain, cette coupe, qui nous rappelle vraiment le corps qui a été livré sur la croix et le sang que Jésus a versé sur la croix pour nos péchés, afin que nous ne soyons jamais abandonnés. Et que nous soyons avec lui pour l'éternité. Peut-être quelques-uns aimeraient prier en ce moment et j'aimerais vous donner cette occasion. Prions ensemble.